Le retour de Radio X.
Avec DH, Jordan et Mel Trudel.
Radio X.
La semaine dernière, puis même Jordan t'en parlait dans l'actualité. Normalement, une entente était prévue entre les États-Unis et le Canada pour ce qu'on appelle la guerre commerciale. Puis moi, j'avais espoir, mais vendredi, je me disais, il n'y a rien annoncé, puis ça traîne. Quand on est revenu, moi, j'ai arrêté, j'ai arrêté d'une compagnie américaine, même si c'est McDo Canada. J'ai arrêté prendre un petit cheeseburger en revenant vendredi soir. Il était 5:00, je pense. Okay. Et là, ça s'est mis à sortir que ça avait échoué, qu'il y avait échec au niveau de la négociation. Je ne sais pas si toi, tu l'as pris, Jordan?
Je l'ai pris pas mal dans ces eaux-là, 1h à peu près, là, quand on sortait de là. Oui, exactement. Puis là, la crise était partie à ce moment-là.
Alors, ça pullule dans l'actualité depuis ce temps-là. Je me suis dit, on va inviter quelqu'un qui est gestionnaire. Il est vice-président vente et développement des affaires chez Canam Pont. Robin Lapointe, salut.
Oui, bonjour.
Merci de nous donner des explications. Robin, vous possédez Canam, toute l'entreprise en général possède plusieurs entreprises aux États-Unis. Vous êtes où au juste?
Ben nous, on a deux usines au Québec. On a une à Québec et à Shawinigan. Ouais. Puis on a fait l'acquisition d'un fabricant de ponts aux États-Unis en 2006 au New Hampshire. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aux États-Unis, t'as la fameuse clause Buy America. Ça fait que même depuis 40 ans, il faut quand même avoir des usines aux États-Unis, sinon on ne peut pas livrer du Canada. Ça fait que ça, on a pris cette décision-là en 2006. Puis on fait au Canada ce que les projets canadiens, puis on fait aux États-Unis les projets américains. Ça fait qu'on n'a pas à traverser avec des produits finis, je parle. On n'a pas à traverser les douanes.
Est-ce qu'il y a quand même certaines transactions entre les entreprises canadiennes et américaines sans que ce soit le produit fini?
Ben la complexité, c'est au niveau des approvisionnements, parce que dans notre domaine, la seule acérie qui fabrique des plaques pour construire des ponts, c'est Algoma Steel en Ontario, et il n'y en a qu'une seule. Et ils font pas toutes les gammes de produits, donc il faut s'approvisionner aux États-Unis ou en Europe. Puis là, ben avec les impositions de tarifs que les Américains ont en place, c'est-à-dire le 25% qui devrait devenir 50%, le gouvernement canadien fait pareil. Ça fait que lui, il impose aussi des tarifs. Ça fait que quand tu achètes aux États-Unis, tu vas payer un tarif en passant les douanes. Par contre, si le produit n'est pas disponible au Canada, il y a un mécanisme de remboursement. Donc, c'est lourd au niveau administratif, mais c'est quelque chose qui se fait. Ça fait que tout ce qu'on peut acheter au Canada pour fabriquer les produits canadiens, les projets canadiens, ben faut le faire. Sinon, ben là, si ça se fait au Canada, tu vas payer des tarifs et tu n'as aucun mécanisme de remboursement. Okay. Ça fait que c'est au niveau provisionnement qu'il y a une complexité qui est plus élevée.
Je suis très curieux. Votre entreprise aux États-Unis qui achète, je ne sais pas, c'est-tu en tonnes de l'acier versus une compagnie canadienne qui achète cette même tonne-là en acier, est-ce que c'est des prix similaires?
Les prix sont similaires si tu tiens pas compte des tarifs. Le marché nord-américain est sensiblement le même prix avec les conversions, même la conversion de devises t'amène sensiblement au même prix. Par contre, si tu dis je te mets 50% de tarifs en passant douane parce que j'ai décidé que c'était ça, ben là, ça devient démesuré. Donc, ça marche pas. On ne peut pas acheter aux États-Unis pour faire des projets canadiens si on n'est pas capable de se faire rembourser les fameux tarifs, là.
Avant l'arrivée de Trump, est-ce qu'à ce moment-là, il n'y avait aucune difficulté à fabriquer des ponts au Canada et d'avoir des contrats aux États-Unis?
Ben, c'est comme j'expliquais tantôt, depuis environ une quarantaine d'années, il y a une clause Buy America dans le domaine des ouvrages d'art. Et puis, on ne pouvait pas livrer du Canada des projets qui étaient financés par le gouvernement fédéral. Donc, c'est pour ça qu'en 2006, on a décidé d'acheter une usine aux États-Unis parce qu'on ne pouvait pas le faire.
OK. À partir de là, si jamais Canam Pont n'achète pas d'entreprise aux États-Unis, est-ce que c'est la fin ou le marché canadien et européen, par exemple, je ne sais pas si vous avez de la business parfois ailleurs que le Canada et les États-Unis, est-ce que c'est la fin de Canam Pont?
Non, pas du tout, parce que notre usine, nos deux usines au Québec, on fait des projets à travers le Canada, puis les revenus sont corrects. Il y a pas de, c'est juste qu'il y avait une opportunité aux États-Unis. C'est un gros marché, là. Ouais. Juste pour vous donner une idée, à New York, là, il y a plus de ponts New York qu'il y en a au Canada au complet. Là. Ouais. d'avoir une entreprise aux États-Unis, une division aux États-Unis qui fabrique des ponts, ben, dans le modèle d'affaires qu'on avait, c'était quelque chose à faire, puis c'est ce qu'on a fait en 2006.
Est-ce que c'est plus compliqué de construire un pont au Canada versus aux États-Unis au niveau de la paperasse, des plans techniques? Est-ce que les gouvernements sont plus difficiles et sévères au Canada puis au Québec qu'aux États-Unis? Ben, c'est sûr que ça doit dépendre de l'État, là.
Moi, je vous dirais que c'est peut-être l'inverse, là. Aux États-Unis, c'est pas si évident que ça, là. Et chacun a ses avantages, ses inconvénients, mais je dirais pas que c'est plus compliqué parce qu'un pont aux États-Unis ou au Canada, c'est des codes, c'est les mêmes. Le pont, il faut qu'il tienne debout, il faut pas qu'il arrive à rien, les entretiens, la durée de vie. C'est des choses semblables parce que quand on a fait le pont Gordéa entre Détroit et Windsor, c'était les codes américains et canadiens, puis c'était le plus sévère des deux, OK, qui était applicable. Puis on a fait cet ouvrage-là, puis c'est bien correct. Puis ça dessert c'est entre les deux pays. Ça fait que moi, je dirais que non. C'est plus au niveau administratif, je dirais, qu'autre chose.
Donc, ce qui est sorti comme nouvelle, l'échec des négociations, Can-Am Pont est peu affecté de ça.
On est peu affecté parce que nous, on a déjà un pied à terre des deux côtés. Par contre, les entreprises qui exportent beaucoup aux États-Unis, puis j'en connais là, dans le domaine de la charpente métallique ou autre, si 50 % de tes revenus vient à l'exportation parce que tu expédies à Boston ou à New York, ben là, tu as un impact majeur parce que le client, ultimement, lui, il veut pas payer le 50 % ou il ne veut pas payer le 25 %, mais quand tu le sais pas, comme ce qui s'en vient, ça se peut que ça soit 50, mais ça se peut qu'il règle avant, ça se peut que ça reste 25, mais tu le sais pas. Fait qu'il n'y a pas un client qui dit, ben moi, je vais prendre le risque puis je payerai ce que ça coûte. Ça fait que les autres, ils essayent de s'approvisionner aux États-Unis puis il va sûrement avoir des impacts sur des entreprises qui vont être majeures, là.
Est-ce que le gouvernement fédéral, dirigé par Donald Trump depuis maintenant bientôt 2 ans, est-ce que vous avez des contrats pour le gouvernement fédéral?
Parlez américain?
Américain.
Oh oui, notre usine au New Hampshire, oui. On fait des projets dans plusieurs États, principalement New York. On en fait au Massachusetts puis dans d'autres États. Là. Notre usine américaine, il y a énormément de volume là-bas. Il y a beaucoup d'ouvrages.
Est-ce qu'il y en a plus depuis que c'est Trump ou c'est similaire?
Je vous dirais que le marché dans lequel on est peut-être plus actif présentement, mais c'est pas nécessairement l'arrivée là, de M. Trump. Je vous dirais que le marché en tant que tel, quand les ouvrages sont à remplacer puis la durée de vie des infrastructures est atteinte, il faut que les ouvrages soient refaits. Là. Puis aux États-Unis, c'est énorme là, comme marché. Ça fait que c'est pas l'arrivée de M. Trump là, qui a fait que le marché est soutenu puis est bon, je ne pense pas. Là.
Revenons ici au Québec, le fameux troisième lien. Il y a 21 entreprises, c'est bien ça, Jordan?
23.
23?
Oui.
Qui ont fait des appels d'intérêt. Est-ce que vous en faites partie seul ou avec un consortium?
Bien, pas encore, mais il faut faire attention. Là. Il y a 23 entreprises. Si tu achètes les documents, ça ne veut pas dire que tu es intéressé. Là.
OK. Parce que expliquez-nous ça, comment ça fonctionne.
Ben non, mais tu as un avis d'intérêt. C'est sûr que les gens, tous les grosses entreprises ou les constructeurs vont lever la main et vont dire « OK, on aimerait bien ça regarder le projet ». Mais s'il y en a 23, quand tu vas déposer le prix, ça se peut qu'il en reste deux. Le pont de l'Orléans, il y avait 2 soumissionnaires, enfin. Le tunnel Louis-Polyte La Fontaine à Montréal, il y avait 1 soumissionnaire. Mais quand tu sors le projet, tu dis aux gros contracteurs à travers le monde, êtes-vous intéressé, voulez-vous regarder le projet? Le monde va tout lever la main. Après, quand tu vas sortir l'appel d'offres, le modèle d'appel d'offres et de construction, ça se peut que tu passes de 23 à 2 ou 3 ou 4, puis peut-être moins que ça, là.
Puis est-ce qu'on considère également qu'on est sur le point d'avoir une campagne électorale, des élections, puis qu'il pourrait y avoir des changements au sein de ce gouvernement-là?
Dans quel sens? Je comprends pas trop le...
Bien, dans la mesure où, on est en campagne électorale, puis ça fait 2 fois que la CAQ nous promet un troisième lien, puis finalement, il se passe rien ensuite, là.
Ah, bien sûr, c'est de la politique, là. Moi, je pense qu'un troisième lien, ça va devenir nécessaire. Puis on a 2 ouvrages là, qui sont... le pont de Québec qui a 108 ans ou 106 ans, qui à un moment donné, il va falloir qu'il refasse l'établier. Puis quand tu vas le faire, ça va être très compliqué au niveau du trafic. Tu as l'augmentation de la population. Le pont Pierre-Laporte, il a été construit, ouvert en 68-69. Ça fait déjà 60 ans. à un moment donné, la durée de vie, là, c'est 75 à 100 ans, à 100 ans normalement. Le pont Champlain, la conception, je pense, amenait une durée de vie à 125 ans. Le pont Gordéas, c'est 125 ans aussi. Quand tu es rendu à 108 ans, ben, je pense qu'il faut que tu prennes le temps de regarder c'est quoi la meilleure option. Puis faire un ouvrage comme ça, là, on parle de 8 à 10 ans, ben, que ça soit ouvert. Là. Part d'aujourd'hui, dis, hey, on décide, on en fait un. Là. Puis après ça, va à l'ouverture, puis couper faire l'ouverture, ça va arriver à peu près à 8 à 10 ans. Fait, il faut qu'il en fasse un. À ça, où, comment? Puis là, ben, il y a beaucoup de spéculations. C'est-tu à l'est? Mme Fréchette, elle a voulu traverser complètement. M. Duhem, disons, on passe par l'île d'Orléans. Le PQ, lui, veut faire un lien pour le transport en commun seulement. Fait, moi, je pense qu'il faut que tu puisses passer des véhicules pour compenser ce qui peut arriver chez les deux autres.
Quand vous dites que c'est à peu près une fenêtre de 10 ans, alors si on se décide dans 5 ans, parce que ça traîne, donc ça serait dans 15 ans qu'on pourrait rouler dessus. Mais dans 15 ans, là, quand on parle d'un pont là, d'à peu près 5 km autour de 12 milliards, est-ce que c'est réaliste ou on pourrait penser fabriquer un pont qui serait quand même très fonctionnel pour 7 milliards?
Ben, tu parles de 5 km. Écoute, le pont Gordéas, je pense qu'il y en a fait. Le pont Champlain avait à 3,4 km, puis il est énorme. Là. Il a coûté 4 milliards, je pense, au total, en 2018-19, quand il a ouvert. Le pont Gordéas, il a coûté 6 milliards ou 6,2, puis il y a 2,7 ou 2,8 km. Mais quand tu regardes Gordéas, là, il est immense. Là. Je pense que c'est 6 voies, c'est très gros comme ouvrage. Ça, quand tu dis 12 milliards, 5 km, si c'est fait de façon, mettons, correcte, je dirais, là, avec un bon modèle d'appel d'offres et de construction, d'après moi, tu peux être en bas de ça. Là.
En bas de combien?
Bon, écoute, je peux pas
te
dire.
Un gros chiffre,
disons. Ça dépend du type de structure qui peut être acceptée. Mais si on s'embarque d'une folie de pont signature puis que il faut que ça soit plus beau que c'est bon, ben tu peux te ramasser à Figal. Pont de l'Orléans, là, il y a 1,7 km qui va coûter 2 milliards plus la déconstruction de l'autre. OK, puis il y a 1,7 km, puis il y a deux voies. Puis le pont Champlain, qui a trois voies des deux côtés, plus le train au centre, qui a 3,4 km, a coûté 3,7 ou 3,6 milliards. Fait que tu fais un petit pont d'1,7 km qui va coûter deux, trois fois plus en surface par rapport au pont Champlain. Ça dépend de ce que tu veux faire.
Qu'est-ce qu'on entend par un pont signature, M. Robin à la Pointe?
Ben, c'est un ouvrage que les gens vont trouver très beau quand ils vont le regarder, mais moi, je dis toujours aux gens, quand tu passes dessus, tu le vois pas. Là. Normalement, t'es dans ton char quand t'es sur le pont. Là. Si tu passes en bateau en bas, ben, ça peut être beau.
Le pont Champlain, c'est-tu un pont signature?
Oui.
OK, c'est style auban un peu, là, c'est ça?
C'est style auban. Ça, il n'y avait pas le choix à cause de la voie navigable, la voie maritime. Mais si tu regardes les approches, ça a été fait de façon très efficace. Là. Puis c'est un bel ouvrage qui a été bien conçu. Puis bien pensé, là, le pont Champlain.
Puis on nous parle souvent que si on avait à construire un troisième lien là, le long de l'île d'Orléans, le fameux pont à l'est, ben il devrait être plus haut que le pont à San Francisco, le Golden Gate. Est-ce que c'est des trucs qui sont réalistes, tout ça? Parce que là, on nous parle de mettre un pont très, très haut pour laisser passer les bateaux du côté droite là, de l'île d'Orléans.
Ben c'est en fonction de la voie maritime, exactement. Il faut que les bateaux passent, il faut que la clairance soit au rendez-vous, là, mais je veux dire qu'il soit plus haut ou plus bas, ça change quoi? Là, c'est les tours, puis regarde le pont Gordéas, c'est la même affaire. Si vous le voyez, vous le regardez, là, il y a une hauteur que peu importe le type de bateau qui passe en dessous, il n'y a pas de problème. Fait que, moi, quand les gars me disent la hauteur, oui, est importante, mais pas tant que ça. C'est la longueur du pont qui fait que le coût peut devenir exorbitant, mais la hauteur, il n'y a pas de problème. Là. C'est faisable, puis il n'y a pas de souci.
Vous m'avez dit tout à l'heure que pour l'instant, il n'y a pas eu d'appel d'intérêt, mais là, il y a d'autres étapes. Là. Nous, on ne connaît pas ça, là, on est néophytes, là, mais ça ne veut pas dire que vous ne serez pas intéressé à un moment donné dans le processus, c'est ça?
Oui, on l'est intéressé. Là. C'est juste qu'à ce stade-ci, quand même qu'on dirait qu'on l'est. On va regarder quelle entreprise, mettons, vont aller de l'avant, puis quel genre de modèle, quel appel d'offres, quel modèle de construction va se mettre en place. Puis après, probablement que tous les consortiums qui vont avoir un intérêt, s'il y en a 5 ou 6, vont nous contacter. Mais à ce stade-ci, tout le monde sait qu'on est intéressé. Il faut juste voir, bon, OK, ça va être quoi, puis comment qu'on fait ça pour que ça soit correct pour tout le monde. Parce que c'est tout de nos... Les gens qui sont là, là, c'est la plupart, c'est tout de nos clients. Ça fait qu'à un moment donné, on va avoir des appels, puis on va voir comment qu'on fait ça.
Et le fait que vous soyez... c'est à quelques kilomètres du fleuve, là. Ça peut-tu jouer dans le prix, ça?
Ben écoute, c'est pas nous autres qui fait le pont de l'Orléans, là. Ça fait que ça peut te donner une idée que ça peut jouer dans le prix. C'est le gouvernement québécois met un contenu québécois ou canadien. Moi, j'aime mieux dire canadien parce que faut quand même que les autres puissent participer.
Oui, oui.
Pour parce que c'est payé avec nos taxes. Ben c'est certain que si tu es à 5 km du pont, ben quand tu mets ça sur un camion, ben tu fais 5 km. Si tu mets ça sur un bateau en Asie ou en Espagne ou ailleurs, ben tu traverses l'océan puis tu t'en viens ici. Ça fait que c'est sûr que c'est un avantage. Puis l'autre chose qui est très important, c'est qu'on est à côté de l'ouvrage. Ça fait que quand il y a un problème ou quoi que ce soit, ben on est au chantier en dedans de 15 minutes. Puis s'il y a des problèmes, ben on est là. Puis on est là pour aider. Là. Ça fait que, globalement, normal, ça va être moins cher si c'est fait au Québec. Ça, je suis convaincu de ça. Là.
Merci beaucoup, Robin Lapointe, vice-président Vente et développement des affaires. On va recommuniquer avec vous là, parce que c'est ça fait toujours partie de l'actualité, même s'il y en a qui disent « Ah, le troisième lien, ça aura lieu. » Jamais lieu. Moi, j'ose croire que ce sera encore réalisable, sachant très bien que vous êtes à quelques kilomètres du fleuve. Merci beaucoup.
Bien, merci beaucoup. Bonne journée à tout le monde.
OK, bye-bye.
Le retour de Radio X.
Restez là. On revient dans un instant.
Radio X.